La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires Géraldine Métral
et Alain Carillon. Bonjour Alain.
Bonjour Géraldine. Avant de faire un focus sur l'obligation individuelle de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, nous commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale avec deux décisions qui portent pour la première sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et pour la seconde sur le co-emploi.
Commençons avec notre premier arrêt du 23 octobre 2024 qui porte sur la question de savoir si le juge doit examiner tous les griefs de la lettre de licenciement, même ceux qui n'ont pas été invoqués par les parties dans leur conclusion.
Oui, en l'espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement visant principalement trois griefs liés à l'exécution de son contrat de travail et un quatrième grief qui lui reprochait d'avoir fait circuler des rumeurs mensongères sur l'entreprise auprès des clients. Devant la cour d'appel, les conclusions de l'employeur n'évoquaient absolument pas ce quatrième grief. Et la cour d'appel a examiné les seuls trois griefs invoqués dans les conclusions pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et c'est justement l'absence d'examen du quatrième grief que le pourvoi reproche à l'arrêt.
Oui, c'est exactement cela. Et la Chambre sociale de la Cour de cassation a donc eu à répondre à cette question de savoir si la Cour d'appel doit examiner tous les griefs, même ceux qui ne sont pas repris par les parties dans leurs conclusions.
Elle affirme déjà depuis longtemps que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que c'est au regard des motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien fondé du licenciement et que les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Elle avait même répondu précisément à cette question par un arrêt du 4 novembre 2021. Après avoir rappelé les motifs que tu viens de citer, elle a ajouté qu'il appartient à la Cour d'appel d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne les ait pas développés dans ses conclusions.
Oui, en somme, la réponse apportée par l'arrêt du 23 octobre 2024 n'est pas nouvelle.
Oui, c'est exact. Mais cette précédente décision, rendue en formation restreinte et non publiée, pouvait être passée inaperçue et ce nouvel arrêt donne à la solution une plus grande solennité en affirmant, par un arrêt rendu en formation de section et publié au bulletin, qu'il appartenait à la Cour d'appel d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur, peu important que celui-ci ne l'ait pas développé dans ses conclusions.
Cette décision clarifie la question pour les juges du fond qui devront systématiquement veiller à ce qu'ils soient statués sur l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement et ne pas se fier aux seuls griefs évoqués par les parties.
Et cette obligation n'est pas neutre pour les juridictions du fond, qui peuvent rencontrer des difficultés à identifier les griefs reprochés aux salariés dans des lettres de licenciement fleuves qui entretiennent une certaine confusion. Mais rappelons qu'en cas d'ambiguïté de ces lettres, les juges du fond sont souverains dans leur interprétation et qu'ils ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties s'agissant d'éléments de fait inclus dans l'examen d'un grief plus global.
Le second arrêt de notre actualité a été rendu le 9 octobre 2024. Il apporte des précisions sur le co-emploi en dehors d'un groupe de sociétés. Avant d'examiner les faits de cette affaire, Alain, rappelons que nous avons consacré notre podcast numéro 13 de janvier 2023 à un arrêt précisant les critères du co-emploi et ce qu'est la notion de co-emploi.
Bien sûr, Géraldine. Avant toute chose, Indiquons que nous ne sommes pas ici dans la situation dans laquelle le co-emploi résulte de l'existence de deux liens de subordination, mais que nous sommes dans l'hypothèse dans laquelle une société, le plus souvent une société mère dans un groupe de sociétés, s'immisce tellement dans la gestion de la société employeur qu'elle prend en réalité toutes les décisions et se comporte dans les faits comme le véritable employeur.
La Chambre sociale a donc reconnu l'existence de cette sorte de co-emploi afin de rechercher le véritable décideur, pour lui imputer les effets de ses décisions et l'empêcher de se retrancher derrière l'écran de la personnalité morale.
Oui, c'est effectivement l'objectif poursuivi, et au terme de l'évolution de la définition jurisprudentielle du co-emploi, celle-ci est désormais fixée par un arrêt AGC du 25 novembre 2020, selon lequel, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Bien, venons-en maintenant aux faits de l'espèce qui concernent la société La Française des Jeux, la FDJ. Cette société dispose d'un monopole d'État sur les jeux de loterie et sur les paris en point de vente. Elle a un réseau de commercialisation de ses produits et elle est organisée autour d'intermédiaires qui assurent la distribution auprès de détaillants.
Et les salariés qui avaient été engagés par l'un de ces intermédiaires soutenaient devant la juridiction prud'homale que la FDJ avait la qualité de co-employeur.
Dans cet arrêt, la particularité tient au fait que les sociétés n'appartiennent pas à un même groupe, mais elles sont liées à la FDJ par un contrat de distribution.
Oui, mais l'absence de lien de groupe entre les différents protagonistes n'exclut pas, par principe, le co-emploi. C'est ce que la Chambre sociale a jugé dans un arrêt du 29 septembre 2021 s'agissant de la société Apple liée à l'employeur par un contrat de distribution. Dans cet arrêt, l'existence du co-emploi avait certes été écartée, mais ce n'était pas en raison de l'existence de ce contrat de distribution. C'était parce que les conditions du co-emploi n'étaient pas réunies, en raison de l'absence d'immixtion permanente de la société Apple dans la gestion économique et sociale conduisant à une perte totale d'autonomie d'action.
L'arrêt évoqué aujourd'hui suit la voie tracée par ce précédent. Le seul fait que l'on soit en présence d'un contrat de distribution n'exclut pas, par principe, le co-emploi. Il appartient au juge du fond de vérifier l'existence d'une immixtion permanente et d'une perte totale d'autonomie d'action.
Il est vrai que dans les réseaux de distribution, le fournisseur occupe souvent une position dominante et coordonne, parfois très étroitement, l'action des distributeurs. C'est encore plus vrai lorsque le fournisseur est, comme en l'espèce, en position de monopole et exerce une activité réglementée. Ces choix économiques ou stratégiques peuvent avoir des conséquences directes et importantes sur les distributeurs et sur l'emploi de leurs salariés. Pour autant, l'arrêt retient explicitement que les contraintes résultant de ces relations commerciales ne peuvent pas suffire en elles-mêmes à caractériser un co-emploi.
Et en l'espèce, les conditions du co-emploi n'étaient pas non plus réunies.
En effet, la Cour d'appel a notamment relevé que les gérants des sociétés employeurs conservaient la maîtrise de l'organisation de leur structure, notamment par des choix de réduction de la surface de leur local, ou de transfert de leur activité d'un site à l'autre, ou qu'il n'y avait aucune ingérence dans la gestion sociale du personnel. Elle a retenu que les salariés ne rapportaient pas la preuve d'une immixtion de la société FDJ dans les sociétés employeurs et que ces dernières avaient conservé leur autonomie de gestion.
Elle a donc pu en déduire que la société FDJ n'avait pas la qualité d'employeur. Cet arrêt s'inscrit donc parfaitement dans la jurisprudence relative au co-emploi. Il peut être caractérisé, même en dehors d'un groupe de sociétés, à la double condition de l'existence d'une immixtion permanente de la société tierce dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage, qui porte sur l'obligation individuelle de reclassement pesant sur l'employeur en matière de licenciement pour motif économique.
Nous avons déjà consacré le podcast numéro 26 d'avril 2024 à l'obligation de reclassement en matière d'inaptitude au travail. Mais nous ne l'avions pas encore abordé en matière de licenciement pour motif économique. Pourtant, l'obligation de reclassement constitue probablement la plus importante des obligations imposées à l'employeur en la matière. Car le droit du salarié au reclassement, qui est son corollaire, découle directement du droit constitutionnel de chacun d'obtenir un emploi, consacré par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. C'est pourquoi la Cour de cassation a fait de la recherche de reclassement une obligation individuelle de l'employeur préalable à tout licenciement pour motif économique.
Tu parles de l'obligation individuelle de reclassement, mais il existe également, dans les grands licenciements pour motif économique, une obligation collective. Peux-tu expliquer comment ces deux obligations s'agencent ?
Bien sûr, Alain. L'obligation individuelle trouve son assise textuelle à l'article L1233-4 du Code du travail, qui prévoit qu'un licenciement économique doit être précédé d'une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné, sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Cette obligation individuelle constitue une obligation de l'employeur vis-à-vis de chaque salarié et existe dans tout projet de licenciement, quelle que soit son ampleur, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou collectif. Elle est une condition de la cause réelle et sérieuse de licenciement et le contrôle de son respect incombe au juge judiciaire.
Et qu'en est-il de l'obligation collective de l'employeur ?
Cette obligation collective n'existe que dans les grands licenciements pour motifs économiques. Elle se traduit par une obligation d'établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi qui comporte un volet relatif au reclassement des salariés. Depuis la loi du 14 juin 2013, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la procédure peuvent être déterminés par un accord collectif validé par l'administration ou un document unilatéral de l'employeur homologué par l'administration. Et le contentieux portant sur ce plan de sauvegarde de l'emploi relève de la compétence des juridictions administratives.
Donc, pour résumer, on peut dire que l'obligation individuelle de reclassement s'impose même si un plan de sauvegarde de l'emploi est établi, quel que soit le nombre de salariés concernés par un projet de licenciement, et qu'elle constitue une obligation distincte de ce plan.
Oui, et cela a deux conséquences importantes. Premièrement, l'employeur ne peut ni s'appuyer sur le plan de sauvegarde de l'emploi pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation individuelle de reclassement, ni se prévaloir des dispositions qu'il contient pour la limiter. Deuxièmement, le juge judiciaire ne doit pas apprécier le respect de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur au regard du caractère suffisant ou non du plan de reclassement.
La situation est claire. Ce qui relève de l'obligation individuelle de reclassement de l'employeur est apprécié par le juge judiciaire, en dehors de toute référence au plan de sauvegarde de l'emploi, qui est, quant à lui, apprécié par le juge administratif. Mais cela peut devenir plus complexe lorsque les obligations individuelles et collectives se croisent à l'occasion d'une même opération.
Tout à fait, Alain. Cependant, la Cour de cassation et le Conseil d'État veillent, chacun dans leur champ de compétences, à ce que l'obligation individuelle et collective de l'employeur soit effective. La Cour de cassation s'assure que l'obligation individuelle de reclassement ne soit pas vidée de sa substance en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle ne s'efface pas devant lui. Qu'il existe ou non un tel plan, le juge judiciaire doit vérifier avec la même exigence le respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement. La Cour de cassation l'a rappelé dans deux arrêts du 15 mai 2024, et juge notamment, dans une situation où le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué, qu'il appartient à l'employeur de justifier devant le juge judiciaire du périmètre du groupe de reclassement et des recherches précises, concrètes et sérieuses de postes qu'il a menées dans ce périmètre. Donc, pour apprécier l'obligation individuelle de reclassement de l'employeur, le juge judiciaire peut éventuellement retenir un périmètre de reclassement différent de celui fixé dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Cette approche différenciée des obligations individuelles et collectives de l'employeur s'explique par la différence de nature dans le contrôle opéré, d'une part par le juge judiciaire et d'autre part par l'administration ou, le cas échéant, par le juge administratif. L'administration procède à un contrôle d'ensemble des obligations de l'employeur, alors que le juge judiciaire opère un contrôle centré sur la situation individuelle des salariés concernés.
Laissons maintenant de côté le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi et concentrons-nous sur l'obligation individuelle de reclassement de l'employeur.
Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée dont l'employeur doit justifier soit en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, soit en prouvant que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement correspondant à leurs qualifications ont été faites aux salariés les ayant refusées.
C'est donc à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Oui. Toutefois, si un salarié invoque un groupe de reclassement ou conteste le périmètre du groupe retenu par l'employeur, il lui appartient d'apporter des éléments tangibles permettant une discussion utile et les juges du fond apprécieront concrètement au regard des éléments qui leur sont soumis tant par le salarié que par l'employeur, si l'existence d'un groupe et son périmètre est établi.
Pour résumer, on peut reprendre la formule d'un arrêt du 31 mars 2021 qui énonce que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Tout à fait, Alain. Pour bien comprendre la teneur de l'obligation de reclassement, rappelons qu'il s'agit d'une obligation d'origine jurisprudentielle qui a, dans un premier temps, été reprise et amplifiée par le législateur avant d'être, dans un second temps, restreinte par les ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017.
La première série de modifications introduites par les ordonnances de 2017 affecte le périmètre d'appréciation de l'obligation de reclassement.
Précisons que ces ordonnances ont restreint le périmètre de reclassement, d'une part en limitant les recherches de l'employeur aux seuls emplois disponibles sur le territoire national, et d'autre part en retenant une notion restrictive du groupe de reclassement. Antérieurement, le groupe de reclassement était défini au regard du seul critère de permutabilité de tout ou partie du personnel. Désormais, il est défini par référence aux dispositions du Code de commerce, auquel s'ajoute le critère de permutabilité. Au terme d'un arrêt du 8 novembre 2023, il faut dorénavant procéder en deux temps pour délimiter le groupe de reclassement. En identifiant d'abord le groupe au regard des critères du Code de commerce et en recherchant ensuite, au sein du groupe ainsi défini, les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
La deuxième modification importante introduite par les ordonnances de 2017 concerne les modalités de diffusion de l'offre de reclassement.
Oui, l'offre de reclassement ne pouvait antérieurement être adressée aux salariés concernés que de manière personnalisée. Désormais, l'employeur peut également diffuser par tout moyen la liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés dans des conditions précisées par décret. C'est l'article D1233-2-1 du Code du travail qui énumère les mentions obligatoires que doit comprendre chaque offre de reclassement. Quel que soit leur mode d'envoi, les offres écrites doivent préciser l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. En outre, lorsqu'elles sont diffusées par une liste mise à disposition des salariés concernés, elles doivent indiquer les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu sur des bases objectives en cas de candidature multiple pour un même poste.
La Cour de cassation a récemment été appelé à se prononcer sur les conséquences de l'incomplétude d'offres de reclassement.
Tout à fait. Par deux arrêts du 23 octobre 2024 et du 8 janvier 2025, elle a jugé dans deux hypothèses que les offres étaient imprécises, dans un cas parce qu'elles ne comportaient pas l'ensemble des indications obligatoires listées par l'article D1233-2-1 du Code du travail. En l'occurrence, l'offre ne comportait ni le nom de l'employeur, ni la classification d'emploi, ni la nature du contrat de travail. Dans un autre cas, parce que les offres ne mentionnaient pas les critères de départage des salariés en cas de candidature multiple. Et dans ces deux cas de figure, ces imprécisions sont de nature à priver les salariés menacés de licenciement des outils de réflexion déterminant leur décision. Elles traduisent une exécution déloyale de l'obligation de reclassement, sanctionnée non pas par une irrégularité de procédure, mais par la privation de causes réelles et sérieuses des licenciements prononcés.
La place centrale de l'obligation individuelle de reclassement pesant sur l'employeur en matière de licenciement pour motif économique est ainsi réaffirmée.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 25 de mai-juillet 2024 et numéro 26 de septembre-octobre 2024. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Alain.
À bientôt Géraldine.